Europe 1,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Très heureuse de vous retrouver dans votre magazine Bien fait pour vous. Ici, notre objectif tous les matins, c'est que vous vous sentiez bien ou mieux après avoir passé une heure en notre compagnie. Alors aujourd'hui, Julia, par quoi on commence ?
Eh bien, on va s'engager tous ensemble aujourd'hui. Vous vous faites peut-être déjà du bénévolat, vous avez peut-être rejoint une association ou peut-être que vous avez envie de soutenir une cause qui vous tient à cœur mais vous n'avez pas encore franchi le pas. Vous n'êtes pas encore vraiment passé à l'action. Et bien dans Bien fait pour vous, on va parler ce matin d'engagement justement et on verra qu'aider les autres peut nous vous aider nous aussi à nous faire du bien. Et pour en parler, nous recevrons deux invités, Isabelle Payot, psychologue clinicienne, ainsi que Léa Moukanas, étudiante et fondatrice de l'association caritative AIDA.
Ensuite, à 11h45, on retrouvera nos bienfaiteurs. Il y aura d'abord Jérémy Combe, notre spécialiste des bonnes manières. Il va nous briefer ce matin sur la bonne façon de présenter nos vœux en ce qui concerne les fêtes de fin d'année par exemple, c'est peu connu, mais en réalité, la période des vœux démarre dès le 15 décembre. Bref, Jérémy va nous expliquer comment s'y prendre concrètement et avec classe. Et puis on retrouvera aussi Benjamin Lévesque, notre chroniqueur beauté. Il va nous parler d'acides ce matin, glycolique, lactique ou encore salicylique. Il va nous expliquer que ces acides veulent le plus grand bien à notre peau. Ça sera dans moins d'une heure. Bien fait pour vous, c'est maintenant.
Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1, on vous accompagne jusqu'à midi en direct avec Julia. Alors exceptionnellement ce matin, pas de chronique de notre cher Clément Lanoux, mais promis Julia, vous inquiétez pas, sera de retour et très en forme avec nous très bientôt. On va donc s'intéresser à la notion d'engagement aujourd'hui. Est-ce que faire du bien autour de soi, c'est aussi se faire du bien à soi ? Est-ce que s'engager, ce n'est pas finalement peut-être un nouvel outil de développement personnel ? On va voir ça avec Isabelle Payot. Bonjour Isabelle.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes psychologue clinicienne et co-autrice du livre « Je réenchante ma vie professionnelle » qui paraîtra chez Erol début janvier. Alors avec nous également ce matin, Léa Moukanas, bonjour. Vous êtes étudiante et fondatrice de l'association caritative AIDA. Vous êtes également l'autrice du livre « Je veux être utile » chez Robert Laffont. L'engagement, c'est quoi au fond Isabelle Payot ? Est-ce que c'est entrer en action, prendre ses responsabilités pour faire bouger les choses, quelles qu'elles soient ces choses ?
Oui, l'engagement, c'est avant tout participer à la vie de la société, c'est être un citoyen. Donc après, on va choisir son engagement, on va choisir ses causes. Mais comme on est des animaux sociaux, on ne vit pas tout seul, on a envie d'être en lien avec les autres, on a envie d'apporter notre contribution. Donc s'engager, c'est vraiment participer et le mettre en œuvre, on peut le déclarer, mais c'est aussi mettre en œuvre toute son action pour aider une cause.
Ça veut dire qu'on peut être engagé sans le savoir aussi, parce que je veux dire, ça peut être, moi je suis dans aucune association, je vais peut-être changer, j'espère, très vite, notamment grâce à cette émission, mais est-ce qu'on est engagé, mais qu'on le veuille ou non ?
Alors peut-être, vous êtes mariée Mélanie ?
Oui, celui-là a tendance à oublier.
Il y a un petit engagement là quand même.
J'ai deux enfants aussi. Donc
gros engagement également. C'est marrant, hein, comme Mélanie Gomez parfois ne veut pas savoir qu'elle est engagée. Et justement dans l'engagement Isabelle, est-ce qu'il y a forcément aussi une notion de durée ou bien est-ce que c'est possible de, je sais pas moi, de s'engager à droite à gauche, je m'engage par exemple à faire un régime et à ne plus manger de sucre pendant un mois. Un enfant peut promettre de ne plus dire de gros mots, il s'engage à ça et ça tient une semaine. Ouais. C'est de l'engagement ça ?
C'est une forme d'engagement de très courte durée et puis qui n'implique pas beaucoup, pas beaucoup de courage en fait pour le faire. Donc dans l'engagement, il y a quand même une notion de durée. On peut s'engager dans une cause, on peut être bénévole, je sais pas, pour les Restos du Cœur et dire je vais le faire un an parce que j'ai pas plus de temps que ça. Donc c'est bien quand même de s'engager même si on n'a pas tant de temps. Et parfois, il y en a certains qui vont s'engager pour des causes tout au long de leur vie. Ça va durer tout le temps. Quoi.
Isabelle, est-ce que selon vous, on a une époque en ce moment où on s'engage beaucoup plus qu'avant ? Ou au contraire, est-ce qu'on est dans une société qui valorise peut-être plus l'individualité aujourd'hui ? On voit les réseaux sociaux, l'égocentrisme, le narcissisme.
Oui, il y en a qui s'engagent dans beaucoup de selfies sur Instagram, c'est vrai. Mais en fait, on a l'impression qu'il y a pas mal d'associations qui ont du mal à recruter des bénévoles. Et pourtant, par ailleurs, on voit beaucoup d'engagement, beaucoup de jeunes qui s'engagent pour trouver du sens, pour trouver des causes. Et puis, on a quand même une grosse cause énorme qui est un peu sauver la planète. Donc, il y a un niveau d'engagement, trouver du sens, qui est plus élevé, notamment chez les jeunes.
Alors, Léa, justement, vous avez 23 ans, vous êtes étudiante. Bonjour déjà.
Bonjour.
Et vous êtes engagée depuis presque toujours, puisqu'à l'âge de 15 ans seulement, vous avez fondé une association. Est-ce que justement vous pouvez nous parler un peu de AIDA, votre association, et de ses missions ?
Avec plaisir, déjà merci de me recevoir, c'est super de parler d'engagement. Moi j'ai fondé AIDA quand j'avais 15 ans, donc j'étais en seconde à l'époque. Pour la petite histoire, AIDA c'était ma grand-mère qui est tombée malade, qui a eu une leucémie, donc un cancer du sang, qui est décédée assez rapidement. Et moi j'ai voulu m'engager à ce moment-là, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des jeunes de mon âge qui avaient la même maladie qu'elle, qui étaient à l'hôpital toute la journée. Et donc j'ai contacté des associations et je me suis rendu compte que c'était très difficile de pouvoir s'engager quand on avait moins de 18 ans, alors qu'il y avait un vrai besoin à l'hôpital, qu'il y avait des jeunes de notre âge qui avaient besoin d'avoir ces visites de pair à pair. Et donc c'est comme ça que j'ai créé AIDA il y a 8 ans.
Vous dites difficile de s'engager avant 18 ans, pourquoi ? Qu'est-ce qui empêche en fait ?
Qu'est-ce qui empêche de s'engager avant 18 ans ? À cette époque-là, déjà, c'était juridique. Je pense que c'est une responsabilité d'engager des mineurs. Et puis, il y avait moins... Il y a 8 ans, c'était l'époque où on parlait de ma génération comme étant la génération canapé. C'était avant les vagues Greta Thunberg, avant tout ce qu'il y a pu y avoir. Et donc, c'était pas vu comme quelque chose de positif d'engager des jeunes. Pas comme un plus.
Et donc, les jeunes engagés dans AIDA autour de vous, ils ont quel âge à peu près ? Décrivez-nous un peu.
Alors, les jeunes engagés chez AIDA, nous, on mobilise à peu près 80 000 jeunes en France chaque année. La moyenne d'âge, c'est 17 ans. Wow. Et on les forme à intervenir à l'hôpital auprès d'autres jeunes de leur âge.
Et justement, vous nous parliez à l'instant de Greta Thunberg avec l'écologie. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé, vous, Léa, autour de vous, les gens de votre âge et même les plus jeunes ? Parce que vous êtes vieille, vous avez 23 ans.
Moi, je suis la vieille des jeunes.
Ouais, hein. Vous êtes la vieille des jeunes. Les jeunes, ils sont dans quel état par rapport à l'engagement ?
Ils ont hyper envie de s'engager, mais ils ne savent pas toujours où aller. Donc, nous, on a énormément de jeunes qui nous contactent en nous disant j'ai très envie de m'engager. Je vois que la seule structure qui peut me prendre en tant que mineur, c'est AIDA. Et donc, je vous rejoins. Il y a vraiment une volonté d'un engagement concret où ils voient les résultats tout de suite, qui est responsabilisant, mais en même temps pas trop engageant à la carte.
Et vous, quand vous voyez un jeune arriver de votre âge à l'époque, 15, 16, 17 ans, à quoi vous voyez que ça va être quelqu'un de bien engagé, justement ? C'est quoi les qualités d'un bon ?
Alors, vous savez, nous, on prend tout le monde. Hein, ouais. C'est venez comme vous êtes.
Mais n'empêche que c'est quoi les bonnes qualités ?
L'envie de bien faire. Ouais. Je crois vraiment, nous, on accompagne justement cette envie de bien faire. Les bénévoles, quand ils arrivent, ils sont formés. On les accompagne, ils ont un suivi psychologique quand ils interviennent à l'hôpital, c'est assez essentiel, mais c'est vraiment cette envie de bien faire et de donner de son temps.
Donc l'engagement, Isabelle Payot, c'est quand même, j'ai l'impression, enfin, de ce qu'on dit là depuis le début de l'émission, c'est plutôt quelque chose d'altruiste pour une cause, ou alors on s'engage envers un conjoint, par le mariage par exemple, mais on s'engage vers quelqu'un ou vers quelque chose. Est-ce que l'engagement vers soi-même aussi, ça compte ? C'est un engagement ?
Oui, c'est primordial même l'engagement envers soi-même, parce qu'on ne peut pas juste s'engager pour les autres, avoir cette abnégation où vraiment je dédie ma vie, je consacre ma vie entière que pour les autres, en étant une petite chose qui n'aurait pas de retour. Donc il faut bien faire attention quand on s'engage, de savoir pourquoi on le fait, et puis de doser, de savoir doser et s'engager pour soi aussi, parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup un don de soi qui
donc
est assez fort.
On s'engage à se respecter aussi, c'est
donc
ça, et à se faire du bien.
Donc on s'engage à se respecter
même.
Et on ne vient pas régler sa thérapie sur le dos de ceux qu'on accompagne. Donc c'est, voilà, donc comme Léa dit, on les accompagne psychologiquement, bravo, parce que
s'engager,
c'est important.
C'est difficile.
C'est très difficile de s'engager, oui.
Oui, parce que selon la cause, on peut effectivement, comme vous le dites, vouloir régler des problèmes perso. Mais donc, vous êtes en train de nous expliquer que le vrai don n'existe pas. C'est jamais 100% entre guillemets gratuit. Il y a un retour quand même qu'on attend en tant que...
On a besoin de... Si on le fait, ça vient réparer quelque chose chez nous ou ça vient nourrir quelque chose chez nous. Et c'est normal, ça peut réparer une blessure. Léa, elle a voulu s'engager, on lui a dit non et c'est une injustice profonde. Donc, elle vient réparer cette blessure en s'engageant pour une cause qui lui tient à cœur. Donc, on vient toujours réparer quelque chose ou donner parce qu'on aurait aimé recevoir. Et ça, c'est normal. Mais pas au-delà d'un certain point. Il faut que l'équilibre soit toujours respecté.
Et on va en parler de cet équilibre dans un instant. Merci à vous. Vous restez avec nous. On va continuer à vous parler d'engagement. Pourquoi est-ce si important dans la vie de s'engager ? Y a-t-il des profils de personnes plus à même de franchir le pas à cause de leur caractère ou même de leur éducation ? On va détailler tout ça dans un instant sur Europe 1. Alors restez bien engagés avec nous.
Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1. Alors, est-ce que faire du bien autour de soi, c'est aussi se faire du bien à soi ? C'est notre sujet du jour que l'on détaille avec nos deux invités. Tout d'abord, Isabelle Payot, psychologue clinicienne, et aussi avec Léa Moukanas, étudiante et fondatrice de l'association caritative AIDA. Léa, vous avez toujours été engagée. Vous aviez des convictions déjà toutes petites, même avant 15 ans. Est-ce que vous vouliez vous rendre utile, comme dans le livre, comme dans le titre notamment du livre ?
Alors, c'est une bonne question. Moi, vous savez, je suis née dans un pays, je suis née au Liban, je suis née à Beyrouth, et je suis née dans un pays où il n'y a pas forcément d'État, et donc où la solidarité, elle est intrinsèque au pays. Et puis, j'ai grandi avec cette culture de quand ça n'existe pas, il faut le créer. Mmh. Et je pense que c'est un peu la combinaison des deux inconsciemment qui m'a portée.
Mais vous n'aviez pas des parents particulièrement engagés ? Enfin, je vous dis, vous aviez un modèle d'engagement ?
Bah, on parlait d'engagement tout à l'heure et de ce que ça veut dire. Mes parents n'étaient pas engagés dans une association particulièrement. Après, la diaspora libanaise aide beaucoup sa famille au Liban, donc c'est une autre forme d'engagement et de responsabilité vis-à-vis de sa famille. Et ma grand-mère, elle, était engagée dans une association caritative au Liban. On n'est jamais allé sur le terrain avec elle, mais elle nous racontait beaucoup son engagement.
Mais votre mère, je crois qu'elle dit quand même depuis que vous êtes petite qu'elle était sûre que plus tard vous travailleriez dans une ONG. Donc il y avait quand même quelque chose probablement même chez la petite Léa, quoi, je pense, non ?
Bah, il y avait quelque chose. En fait, elle a raconté ça quand je suis rentrée un jour de l'école et on a une dame dans la cour qui a pris un pot de fleurs sur la tête qui s'est évanouie. Et donc je me suis dit, bah, je vais aller la sauver, sauf que je me suis évanouie aussi à la vue du sang. Et ma mère, en rentrant gentiment, m'a dit, non mais toi, plus tard, tu travailleras dans une ONG, c'est sûr. Donc ça venait de là. Je pense qu'il y a toujours eu la volonté d'aider l'autre. Et je crois que le Liban a vachement aidé dans ce sens-là, quoi.
Isabelle, est-ce qu'il y a des profils de personnes qui sont plus à même de s'engager pour une chose qui leur tient à cœur ? Parce que la dernière fois que vous étiez venue dans l'émission, vous nous aviez parlé d'empathie. Et justement, nous, on imagine quand même que les personnes empathiques, c'est plus facile pour elles de se mobiliser pour aider les autres. Est-ce que c'est vrai ?
Oui, c'est vrai. La preuve en est, là, la dame qui prend le pot de fleurs sur la tête, c'est exactement ça. Ça déclenche l'empathie de Léa qui fonce. Donc il y a ça. Et puis, il y a aussi ceux qui ont des valeurs fortes en plus de l'empathie et notamment la valeur justice. Si je trouve que c'est injuste, si ça manque de justice, je vais plus m'engager. Donc il y a des valeurs aussi qui me portent. Il y a et l'empathie et si on est un peu moins empathique, on peut s'engager quand même au nom de certaines valeurs, notamment la justice et d'autres.
Je reprends avec vous, Léa, pour ceux qui nous rejoignent peut-être tout de suite. Aïda, c'est le nom de votre association, c'était aussi le nom de votre grand-mère. Pouvez-nous rappeler comment a germé l'idée de votre association ? Qu'est-ce qui est arrivé dans votre histoire personnelle, concrètement ?
Oui, j'avais 15 ans à l'époque et ma grand-mère, donc Aïda, a une leucémie. Elle est décédée assez rapidement et j'avais envie de m'engager parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des jeunes de mon âge qui avaient sa maladie, qui étaient à l'hôpital entourés d'adultes. Et donc, on a créé avec ma classe une association pour permettre à des jeunes de s'engager dans la lutte contre le cancer.
Isabelle, oui, pardon. C'est fréquent de s'engager comme ça, suite à quelque chose qu'on a vécu, une épreuve qui nous a marqué dans notre vie personnelle. C'est souvent ça, le déclic principal ?
Oui, c'est un déclencheur. Vraiment, ça vient taper profondément. Ce que je disais tout à l'heure, ça peut être une blessure, une injustice. Donc, ça va nous mobiliser. On veut réparer quelque chose, on peut pas garder cette blessure-là. Et c'est très souvent sur des prises de conscience et des déclencheurs comme ça qu'on va y aller, qu'on va décider soit de monter une association, soit de rejoindre une association ou une cause, enfin une fondation ou autre, mais une cause qui va nous porter, quoi.
Et dites-moi, Isabelle, est-ce que l'engagement, c'est héréditaire ? Parce que tout à l'heure, on entendait Léa parler de sa grand-mère, hein, qui elle-même s'occupait d'une association au Liban. J'imagine qu'elle vous en a parlé quand même, votre grand-mère. Ouais. Vous avez baigné un petit peu dans cette ambiance et cette transmission. Est-ce qu'on transmet à ses enfants ou ses petits-enfants ce sens de la justice et cette envie de faire bouger les choses ?
Oui, alors c'est héréditaire, mais pas génétiquement. Mais pas génétiquement plugué pour s'engager. Mais c'est la question de la pédagogie de l'exemple, quoi. On va procéder par imitation. Donc, on va avoir envie en voyant peut-être ses parents ou là c'était pas les parents de Léa mais c'était sa grand-mère, on entend parler, il y a quelque chose en nous qui nous appelle aussi là-dedans, donc on va avoir envie parce qu'on a vu autour de nous des amis, un oncle, des voisins, etc. Ça va venir nous chercher, donc oui, par imitation.
Donc c'est héréditaire, donc plutôt par imitation, mais on est d'accord que ça peut marcher dans tous les sens, je pense, de l'arbre généalogique, parce que moi ce que je vois de mes enfants par exemple qui sont très engagés déjà sur la cause de l'environnement, etc. Ça peut inspirer les parents, justement. Donc, ça peut être dans... Et puis, on peut être inspiré par un ami, un voisin. Enfin, c'est pas que dans la famille que ça se joue.
Non, ça se joue pas que dans la famille. Ça se joue vraiment de façon élargie. Ça peut être un enseignant, un éducateur, quelqu'un qu'on a croisé ou des amis de nos parents, etc., qui vont vraiment nous inspirer. Ou bien, ça peut être un modèle autre qu'on voit à la télé, quelqu'un qui s'engage pour une cause et on se reconnaît dedans. Donc, effectivement, ça peut être aussi nos enfants qui s'engagent et certains très très jeunes maintenant, c'est nos enfants souvent sont nos maîtres. Hein, et donc on va se dire, j'y vais aussi, sinon C'est un peu stupide de rester sur le banc, quoi.
Isabelle, on a fait la semaine dernière une émission sur le courage. Et je crois qu'il en faut quand même du courage, enfin j'imagine, pour défendre ses convictions au quotidien. Et souvent, contre l'avis de certains, c'est vraiment nécessaire d'être courageux pour s'engager.
Ouais, alors il faut du courage, mais il va y avoir des degrés au courage. Hein, parce que si je m'engage, on disait tout à l'heure, à faire un régime sur un mois, mon courage, sur une échelle de 0 à 10, c'est pas très haut. Mais par moment, il faut énormément de courage, déjà pour mettre son petit confort en second plan et se dire, je vais donner du temps, je vais donner de l'énergie. Donc ça veut dire que je me fais parfois passer en second. Attention de ne pas trop le faire non plus, mais en tout cas pour cette cause. Et puis, parfois, je m'engage pour des causes qui sont très dangereuses, qui sont énormes. Et là, il faut un courage absolu. Et je rappelle que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Donc en fait, on y va avec sa peur. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on y va quand même. Et on prend son courage et sa peur en bandoulière.
Léa, j'imagine qu'on a dû vous dire souvent qu'en créant une association comme ça donc pour aider les gens atteints de cancer hospitalisés, à 15 ans, on a dû vous le dire que vous étiez courageuse. Surtout que vous avez créé cette association assez vite après le départ de votre grand-mère. Et puis quand même, c'est une association, donc je l'ai dit, qui lutte contre le cancer, enfin qui aide les gens qui ont un cancer. Ça veut dire que c'est forcément, quand on est bénévole dans ce genre d'association, c'est forcément s'imposer de voir des gens partir, quoi.
Oui, tout à fait. Nous, il y a 20% des jeunes qu'on accompagne qui ne s'en sortent pas. Et donc, évidemment, il y a des jeunes avec qui on est au quotidien qui meurent. Moi, j'ai l'exemple en tête d'un jeune homme qui s'appelle Ethan, qui avait pas très loin de mon âge au moment où on a commencé à l'accompagner. C'est le tout premier patient qu'on a accompagné qui est décédé. C'était pas facile, évidemment. Et ça demande 14-15 ans de se poser certaines questions sur son rapport à ces sujets-là. C'est aussi pour ça qu'on forme nos bénévoles. C'est aussi pour ça qu'ils sont accompagnés, qu'ils ont un suivi psy et qu'on en parle. Moi, je crois que le plus important sur ces sujets, c'est d'être capable de mettre des mots et que ça ne reste pas des tabous.
Léa, ça fait 7 ans que l'association existe maintenant et vous avez croisé des personnes incroyables, des bénévoles, jusqu'à des personnalités d'ailleurs. J'imagine que ça doit vous nourrir et vous motiver, non ? Ça se vit collectivement, l'engagement ?
Ça se vit, c'est une histoire, c'est une aventure collective. Aïda, avec une seule personne à sa tête, c'est pas Aïda. Il y a des bénévoles, il y a des patients qu'on accompagne au quotidien, il y a des professionnels de santé, il y a des personnalités aussi qui se sont engagées avec nous. C'est vraiment une histoire de rencontre et c'est vraiment le croisement de gens qui se seraient jamais croisés s'il n'y avait pas eu Aïda et s'il n'y avait pas eu cet engagement.
Eh bien, merci à toutes les deux. On va revenir avec vous dans quelques minutes pour continuer à parler d'engagement. Quelles sont les valeurs profondes des gens qui s'engagent ? Comment faire en sorte qu'elles deviennent contagieuses ? Est-il bon d'ailleurs d'essayer de convaincre les autres de s'engager ? Pour en savoir plus, restez bien avec nous.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali. Mélanie Gomez.
On est avec vous jusqu'à midi, bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 11h29 et on vous dit tout sur les bienfaits de l'engagement ce matin. On en parle toujours avec Isabelle Payot, psychologue clinicienne, et Léa Moukanas, étudiante et fondatrice de l'association caritative AIDA. Alors Isabelle, vous êtes psychologue notamment sur des sujets liés au travail. Est-ce que les gens engagés, comme Léa, peuvent être à fond dans une cause qui leur tient à cœur et faire un travail qui ne leur plaît pas à côté, par exemple, ou ce sont des personnes qui portent des valeurs, justement, dans tout ce qu'ils font? J'ai l'impression que c'est souvent ça, moi, mais je ne sais pas.
Oui, c'est parce que c'est difficile, c'est-à-dire que d'un côté, il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'engagement vraiment, et de l'autre côté, il y aura un engagement maximal, il n'y a pas d'équilibre là-dedans. Donc ça ne peut pas vraiment tenir, parce que c'est quand même des personnalités. Quand on s'engage, on a envie que tout ait du sens.
Que tout soit aligné, quoi.
Que ça soit le plus aligné possible, sinon il y a un côté où vraiment on va perdre son énergie, on n'est pas aligné, on ne se sent pas bien, et on a même envie de tout envoyer bouler. Et de l'autre, il y a beaucoup plus de choses qui nous attendent. Donc, en fait, je pense que dans l'engagement et ce que je vois souvent, même dans mes patients, il n'y a pas de demi-mesure. Ça ne peut pas, ça peut pas être pas chouette d'un côté et extrêmement bien de l'autre.
Isabelle, est-ce que on est plus heureux finalement quand on est engagé dans une association ou alors qu'on fait du bénévolat pour une cause ? Je crois que c'est quelque chose qui a été étudié avec un billet de 50 dollars.
Exactement, oui. Vous savez, en psychologie sociale et en psychologie positive, nous, on aime beaucoup faire des études pour tout et pour rien. Et donc, mais parfois, c'est très intéressant. Donc, il y a eu une étude où on a donné un billet de 50 dollars à des personnes et en disant, vous pouvez le dépenser comme vous le souhaitez, soit pour vous, soit pour aider d'autres personnes, etc. Et bien sûr, on leur donne pas juste comme ça. Après, on mesurait l'état de satisfaction, l'état de ressenti de bonheur de chacun. Et ceux qui avaient dépensé leurs 50 dollars pour eux, c'était chouette, mais ça durait pas longtemps après le bénéfice, alors que ceux qui avaient fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, leur degré de satisfaction était beaucoup plus élevé, beaucoup plus long. Et du coup, on s'est rendu compte à partir de là, notamment Martin Seligman, qui est le pape de la psychologie positive, qu'il y avait plusieurs conditions du bien-être qui étaient être en relation avec les autres, donc aider les autres, ça fait du bien, avoir du sens dans ce qu'on fait, s'engager, avoir des émotions dites positives, ressentir du positif, et puis avoir des accomplissements également. Donc, dépenser $50 pour les autres, ça fait vraiment du bien.
Donc, s'engager, ça fait vraiment du bien. Être généreux, ça fait vraiment du bien. Mais on ne peut pas quand même ne pas parler du fait que l'engagement, parfois, il peut prendre un tournant un peu agressif. Je veux dire, quand il est un peu politique, notamment, on sait que pour soutenir une cause, certains peuvent aller très, très loin, taper très, très fort. Il reste bénéfique, l'engagement, quand il prend cette tournure ou pas ?
La difficulté, c'est toujours un engagement où j'ai raison, tu as tort. Donc, à partir du moment où on bataille pour prouver qu'on a absolument raison et qu'on veut convaincre les autres que je suis du bon côté et forcément toi tu es du mauvais, c'est moins cool parce qu'on n'est pas dans une même dynamique, on n'est pas dans un engagement où on va être en relation sereine avec les autres.
On va être très
en opposition et du coup, c'est bien, on est engagé, mais il faut se demander à quelle fin. Est-ce que les fins sont toujours bonnes ?
Léa, alors vous êtes encore étudiante à 23 ans, mais je ne sais pas pourquoi. J'imagine, moi, que vous faites des études en rapport avec votre engagement. Est-ce que c'est le cas ? Ou alors, pas du tout, vous êtes dans la finance internationale.
Alors, vous n'êtes pas très loin d'avoir raison. Parce que, bon, déjà, j'ai fini les cours vendredi, donc il y a deux jours. Et ensuite, oui, j'ai fait des études de finance et de stratégie. Mais ça m'aide beaucoup au quotidien avec Aïda, parce que vous levez des fonds, il faut garantir la bonne gestion de ces fonds-là. Donc, c'est quand même.
Oui, mais elle le fait, mais en pension à l'association,
ça va. C'est ce qui vous motive, de toute façon, et c'est ce qui vous anime au quotidien.
Léa a fondé une association, clairement, à votre âge. Enfin, vous l'avez fait à l'âge de 15 ans, aujourd'hui, vous en avez 23, mais on imagine, là, vous l'avez dit, grâce à vos études, vous en comprenez mieux sur les levées de fonds, etc. Mais c'est beaucoup, beaucoup de responsabilités, j'imagine, et de travail. Ça vous prend combien de temps, justement, par exemple, en ce moment, là, je ne sais pas, Aïda, c'est tous les jours
Aïda, c'est tous les jours, tous les soirs, tous les matins. C'est un job à plein temps. Ouais. On a une équipe aujourd'hui d'une vingtaine de salariés qui encadrent les bénévoles un peu partout sur le territoire. Donc, c'est un engagement et c'est devenu une grosse structure.
Et comment vous faites pour motiver les troupes et donner l'énergie de faire des actions, justement ? Vous avez des trucs, une méthode, un management spécial ?
Alors, vous savez, ce qui motive, c'est le terrain. Quand vous êtes, et d'ailleurs, mon équipe me dit souvent, quand je suis trop déconnectée du terrain, j'arrive pas à avancer. Donc nous, on est présents à l'hôpital sur le terrain tous les jours et c'est ça un peu notre moteur qui nous permet d'avancer sans nous brûler les ailes aussi. C'est important.
C'est ça. Isabelle, d'ailleurs, dans le milieu du travail, l'engagement, mais je veux dire l'engagement aussi professionnel, c'est important. Comment on fait pour fédérer une équipe, pour qu'elle reste motivée ? Est-ce que vous avez des astuces à nous donner peut-être pour justement garder les gens engagés autour de nous ?
Oui, l'engagement, c'est souvent, mais Léa le disait tout à l'heure, c'est collectif. C'est bien d'être engagé tout seul, mais il faut qu'il y ait une équipe et donc il faut y aller et il faut mettre en œuvre. Donc dans une équipe au travail, pour les tenir engagés, il faut déjà un modèle de management qui est engagé également.
Et engageant.
Il faut qu'il y ait du sens, il faut trouver du sens, il faut trouver les talents et les qualités de chacun pour qu'on sache quelle est notre place. Donc on sent qu'on fait partie de ce collectif, donc ça fait du bien également. Et puis il faut célébrer les réussites et les accomplissements en fait. Donc c'est ça qui permet de rester engagé. C'est pas juste un niveau de salaire, parce que ça ne suffit pas. On met tout ce qu'on est dans son engagement.
Comment on célèbre les choses chez Aïda ?
Alors nous, on a un apéro le vendredi soir.
Vous avez 23 ans, ça me rassure.
Où on célèbre ce qu'on a réussi à faire dans les deux dernières semaines. Et puis, on a un groupe d'équipe aussi, où à chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle, c'est juste un groupe qui est dédié aux bonnes nouvelles. Et donc, à chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle, on le publie sur ce groupe-là. Et donc, on a toute la journée dans les bonnes périodes et puis un jour sur deux dans périodes un peu plus dures, les bonnes nouvelles.
Isabelle, est-ce qu'il y a des métiers où la valeur engagement est plus importante qu'ailleurs ? On parlait du milieu hospitalier, j'imagine, comme Léa en est l'exemple, que c'est le cas. Est-ce qu'il y a d'autres métiers où l'engagement est plus prégnant ?
Oui, il y a des métiers où l'engagement se voit plus. Donc, quand il y a du don de soi ou bien le personnel soignant, mais aussi si on prend les pompiers, la police, enfin des choses
les maîtresses d'école,
où on va sauver les autres ou bien où on transmet les enseignants, bien évidemment. Mais quand on pose la question, finalement, à chacun, quel que soit le métier, on voit que le niveau d'engagement, quand on aime ce qu'on fait, il est toujours là. Par exemple, vous engagez chaque matin à faire du bien. bien, aux gens, voilà. à faire du bien aux auditeurs. Il y a ce degré d'engagement. Peut-être que ça se voit moins parce que vous. Alors, peut-être que vous sauvez des vies quand même, mais.
Je pense pas. On aimerait bien.
Mais donc, il y en a où ça se voit plus, mais dans tous les cas, quand on travaille, il y a besoin d'être engagé.
Mais comment on fait justement ? Parce qu'à force d'être très engagé, voire trop engagé, on le dit un peu comme ça à bas mots depuis tout à l'heure, mais on peut être trop engagé et se brûler les ailes dans le cadre associatif ou même dans le travail. Ça existe le burn-out de l'engagement ?
Oui, oui, ça existe. Tous les burn-out, burn-out parental, burn-out professionnel, burn-out associatif, ça existe parce qu'on va trop loin. Donc on se fait passer au second plan ou bien voilà, on y va et on pense pas que se reposer, ça peut servir à quelque chose. Notre tête veut y aller et notre corps, lui, ne s'arrête pas. Donc, il y a une limite à poser. Il y a une
Donc,
limite...
l'apéro du vendredi tous les 15 jours chez Aïda, c'est bien. Hein.
Ça, c'est très, très bien. L'apéro du vendredi, c'est excellent.
Mais oui, donc... tout le temps.
Ils vont demander deux fois plus d'apéro.
Tous les jours.
Donc, il y a vraiment à savoir se poser ses propres limites, à se poser la question pourquoi je fais ça et que ce soit juste, hein, c'est pas, je viens pas régler quelque chose sur le dos des autres. Et puis, se poser ses propres limites et pouvoir poser les limites aux autres en disant, bah là, voilà, vous, je suis pas disponible entre telle heure, ou je suis pas disponible ce week-end. Débrouillez-vous entre vous, sinon on est corvéable à merci et on va sur de toute façon dans le mur, quoi. De façon sûre dans le mur.
Léa, pour terminer, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs qui nous écoutent pour les encourager à s'engager ?
Bah, d'y aller, s'ils en ont envie, je crois que c'est aussi une question, c'est une question de courage, c'est une question de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, mais c'est aussi une question d'envie. C'est ok de pas avoir envie, mais quand on a envie, faut pas hésiter, faut y aller. Ils peuvent venir chez Aïda s'ils en ont envie, et puis il y a aussi plein d'autres associations
J'allais
qui peuvent les accueillir.
Si on a envie, mais qu'on sait pas dans quoi s'engager, on part sur quoi alors ? Chez vous, tant qu'à faire.
Ah bah, chez nous, s'ils veulent, ouais, on a un site internet, en ce moment une OP qui est Noël à l'hôpital, sur noëlalhôpital.fr qu'on peut retrouver. Et puis s'il y en a qui ont envie de nous aider,
juste pour nous dire justement.
À offrir un cadeau à un jeune hospitalisé, donc on a plein de cadeaux qui se retrouvent entassés à l'hôpital en fin d'année, mais c'est jamais des cadeaux que les jeunes ont choisis. Et donc là, on a fait un site géant où les jeunes ont commandé leurs cadeaux, et donc en quelques clics sur noëlalhôpital.fr, on peut offrir à un jeune hospitalisé le cadeau qu'il a commandé à Noël.
Ouais, c'est une super opération. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation ce matin et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de vos livres respectifs. Isabelle Payot, votre livre qui paraîtra chez Erol début janvier, c'est « Je réenchante ma vie professionnelle ». Et puis le vôtre, Léa Moukanas, son titre c'est « Je veux être utile ». Et c'est paru chez Robert Laffont. Et bien voilà, merci à vous deux. On change de sujet, Mélanie, à présent. On passe à quoi ?
Oui, à notre séquence avec nos bienfaiteurs. On va apprendre comment présenter des vœux avec élégance. Et oui, pour Noël ou même pour la nouvelle année, vous envoyez encore des vœux, vous ? Alors, si c'est le cas, sachez qu'il y a des règles de savoir-vivre à respecter pour bien réaliser cet exercice. Et puis, on va également faire un focus sur ces acides qui veulent du bien à notre peau. Restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous, on reste ensemble jusqu'à midi. On passe maintenant à la partie de notre émission avec nos bienfaiteurs. Benjamin Lévesque, bonjour.
Bonjour Julia, bonjour tout le monde.
Vous allez nous proposer une chronique beauté décapante
l'heure. On va décaper la peau grâce à des acides de fruits. Alors chaque acide a des effets différents et vous saurez lesquels utiliser en fonction de votre peau.
C'est gentil Benjamin d'avoir pensé à Julia et à ses besoins parce que franchement là ça va pas du tout. Là.
Ça va.
Allez, on revient avec vous juste après car tout de suite on va commencer par la chronique de Jérémy Combe. Bonjour Jérémy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors
bonjour.
Vous êtes très focus Noël et vous allez nous donner des infos sur la manière de présenter nos vœux à nos familles, nos amis ou encore nos relations de travail. Et même pour les vœux, c'est pas vrai, il y a encore des règles à respecter.
Eh bien oui, moi j'aime la période de Noël, donc ça m'excite un petit peu.
Nous aussi, on a
Et j'ai parlé avec Benjamin en antenne, il présente jamais ses vœux, donc écoute attentivement
non, c'est vrai,
cette chronique.
Je ne fais jamais ça.
Et c'est quand la période des vœux alors en vrai ?
Alors sachez qu'il faut présenter ses vœux entre le 15 décembre et le 31 janvier.
Et ça je l'ignorais complètement.
Avant le 1er janvier, on a le droit.
Ah oui, on peut à partir du 15 décembre parce qu'on peut présenter des vœux pour passer de belles fêtes, de joyeuses fêtes de Noël et en même temps on en profite pour les.
On ne se souhaite pas une bonne année le 15 décembre, on est d'accord.
Non, exactement, on peut avoir de belles fêtes. Oui, Julia ?
Mais non, mais oui, je suis très, très impressionnée. Je viens de comprendre, en fait, j'avais la même question que Mélanie. On ne souhaite pas une bonne année quand même, hein, le 15 décembre.
Non, mais on peut dire, je vous présente mes vœux pour des belles fêtes et j'en profite pour vous présenter aussi mes vœux de bonne année.
Ah oui, déjà ?
Ah oui, mais vraiment, c'est 15 décembre, 31 janvier.
Moi, je vais
avant,
le faire. Hein.
Et on dit que ça
tôt,
porte malheur de le
et
faire
après,
avant,
c'est trop
non,
ça c'est pour les anniversaires.
On dit ça chez moi, à Trouillas, en Catalogne.
Pour les vœux de bonne année ?
Mais je sais pas, on dit ça. Pour... Moi, j'ai toujours entendu dire souhaiter la bonne année avant le... les 12 coups de minuit. Tout
non,
ça,
non,
ça porte
non,
la
non. C'est vraiment. D'accord. C'est la période des fêtes. Donc, il y a une période où on peut se souhaiter des vœux.
Okay. Et comme ça, c'est fait. Le 15 décembre, on est tranquille.
Mais
on
franchement.
Non, mais on vit toujours la bonne économie.
Est-ce qu'on est d'accord qu'à partir du 1er janvier, quand on reçoit notamment des textos avec les bons vœux, etc., on. Je sais pas, c'est une tanasse, quoi.
Non, mais les SMS groupés, moi, je ne réponds même pas.
Voilà, justement, c'est quoi le support ?
SMS groupés, vous allez un peu plus vite que ce que je voulais vous dire.
Non, c'est quoi le support ? Alors, comment on choisit d'exposer ses vœux au monde ?
La bonne carte de vœux n'existe pas. Parce que même si vous allez acheter la meilleure carte, la plus belle carte dans la plus jolie papeterie, elle est souvent un peu cheap. Il y a trop de paillettes, le Père Noël est trop rouge. Donc, ce n'est pas évident. En revanche, n'allez pas présenter vos vœux sur une carte de visite avec simplement votre nom, par exemple. Parce que c'est quand même une période où on fait des efforts. Mmh. On est joyeux, on prend un support. La carte de vœux la plus jolie, c'est la photo que vous allez imprimer, une photo de famille, vous avec vos enfants, vous avec votre compagnon ou votre fiancé. Si jamais vous n'avez pas envie
d'être seul,
votre chien Benjamin,
oui, mais
vous
avez plus de chien. Non mais ça peut être quelque chose que vous appréciez. Et si on est seul, on se met
mon
pas
doudou,
non plus.
Mon doudou, c'est très
un
bien.
Un collier de perles, celui que vous portez aujourd'hui, par exemple. Non mais la carte de vœux, c'est une photo de famille.
D'accord.
Donc vous pouvez mettre vos enfants. Au soleil, à la neige, etc.
Et qu'est-ce qu'on écrit dessus avec une belle encre ? Enfin, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, Julia, on écrit effectivement jamais avec des couleurs violettes, rouges ou parmes. Ça, c'est réservé pour les enfants, pour leur carton d'anniversaire.
Ouais.
L'encre que l'on privilégie pour les vœux, c'est l'encre noire ou l'encre bleue, mais on ne fait pas de fleuriture.
Mais je ne peux pas avec un stylo à billes ?
Ah bah ça c'est un joli
non,
stylo
oui c'est pas mais... forcément le stylo à plumes
enfin, non mais c'est quand même
voir,
mieux
les gens, une fois qu'ils reçoivent la carte ils savent pas avec quoi vous avez écrit
si,
quand même
on fait la différence entre l'encre et le stylo
oui
quand
mais
même.
Il peut y avoir une belle un beau feutre vous voyez ce que je
oui,
veux dire
oui c'est ça voilà. En gros on prend pas non plus le feutre pour colorier le coloriage de vos de vos enfants
j'aurais pas trop pensé quand même
et le béaba voilà, ce qu'il faut savoir c'est que quand vous écrivez chère Monique cher papa cher quelqu'un vous allez aligner toutes les phrases sous le C de chair.
D'accord.
Vous voyez, ça va vous servir de régulateur, on va dire, pour écrire, pour commencer toutes vos phrases.
Et quelles sont les formules appropriées ?
Ah bah alors ça dépend de l'intimité, de la proximité que vous
Comment
avez avec
vous
la
faites,
personne.
Vous avec quelqu'un de votre famille, par exemple ?
Chers parents, mais là je leur dis ou je les appelle, mes parents c'est différent.
Alors avec moi, comment vous allez le faire ?
Chère Julia.
Ouais. Après ?
Je suis très heureux. On se tutoie ou on se voit dans la
on
vie ?
On se tutoie.
On se tutoie. Chère Julia, je profite de cette période pour te présenter mes vœux. Je sais que récemment, tu as vécu un moment magique. J'espère que l'année 2023 sera
de, voyez, de cet ordre-là.
Exactement.
Ah, c'est génial.
Donc, on essaie d'en faire un peu plus. Mais sachez que quand même, un petit rappel pour le béaba dans la vie quotidienne. On prend du papier à lettres, blanc ou crème. On ne prend pas des feuilles de couleur. Et c'est pareil, on va...
C'est ce qu'il y a de plus élégant.
Exactement, c'est ce qu'il y a de plus élégant.
Oui, allez-y,
non, c'est bon.
Grande question, quelle enveloppe doit-on utiliser ? Longue, correspondance ? C'est important de savoir aux correspondances.
Effectivement. Si jamais vous avez fabriqué votre... Comment ?
Recommander.
Pour une carte de vœux, ce serait drôle. Dans la vie quotidienne, si jamais vous avez fait votre carte de vœux toute seule ou fabriquée ou achetée, vous allez prendre le format qui correspond à votre photo, à votre carte. Si jamais vous achetez votre carte de vœux, souvent elle est accompagnée d'une enveloppe. Mais dans la vie quotidienne, pour la correspondance professionnelle, la feuille va se plier, vous savez, en trois, ce que j'appelle en accordéon.
Ah oui, oui.
Vous voyez, on va la plier comme ça.
Oui, en trois.
En trois. Et donc là, vous allez prendre une enveloppe rectangulaire. Oui. Ça, c'est la correspondance professionnelle. Mais dans la vie personnelle, dans la correspondance plus intime, on va plier en quatre. Et on prendra une enveloppe, ce que j'appelle plus carrée, mais elles sont aussi un peu rectangles.
Moi, je vous l'enverrai en trois, parce qu'après tout, mes collègues...
C'est pas gentil. Et dites-moi, mon petit doigt me dit qu'il y a bien aussi des codes pour écrire l'adresse, non ?
Exactement. Alors, c'est pareil. Monsieur et Madame Jean-Rémy Duval. Madame Jean-Rémy Duval, si jamais elle est mariée ou si elle est veuve. On va aligner aussi l'adresse sous le M.
D'accord.
De monsieur ou madame. Si jamais vous êtes feignant comme Benjamin et que vous prenez des abrégés, c'est M et Madame M-M-E. Vous voyez, on ne met pas M et madame
le petit
en hauteur, exactement. Ouais.
Ça, et c'est... monsieur, on peut faire M-R ?
Jamais.
C'est... Ah bon ?
Non, ça c'est anglais.
Pas, c'est en anglais.
C'est monsieur, c'est M, point, et madame, grand M, petit M, point. Bah non, jamais. Et toujours le prénom.
Mais on a un petit côté british avec Julien.
C'est ça. Et toujours le prénom avant le nom. Prénom. Et si vous écrivez à une femme mariée ou veuve, c'est le prénom de son mari.
Ça, j'aime pas.
C'est madame Jean Duval.
Ah, incroyable. Bah dis donc, on est vraiment des ploucs. Hein,
mais... Juste pour terminer rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, on peut quand même envoyer des SMS, non?
Alors, c'est moderne. Mmh. C'est normal, mais vous venez de me dire que quand vous receviez un SMS groupé pour le 31, on n'a pas envie de répondre. Mmh. On peut le faire à des bons copains. Ouais. On peut le faire à son frère si on n'arrive pas à le joindre. Mmh. Mais quand même, la tradition des SMS, c'est moyen. Mais on ne pourra pas empêcher tous les ados de vous envoyer un SMS, et c'est quand même sympa qu'ils pensent à vous.
Ouais,
mais même dans la période des vœux, n'oubliez pas que les bonnes manières, ce n'est pas obligatoire, mais c'est bon à savoir.
Eh bien, merci beaucoup, Jérémy. Et si on passe à la beauté à présent, parce que de plus en plus d'acides, figurez-vous, entrent dans la composition de nos crèmes. Benjamin, le mot acide, franchement, ça peut faire peur. Et pourtant, certains d'entre eux peuvent faire des merveilles sur notre peau.
Oui, alors il en existe une quinzaine qui sont utilisés par le secteur de la beauté. Alors le plus connu, très certainement, c'est l'acide hyaluronique, hein, très hydratant et qui repulpe la peau. Je vous avais aussi parlé, il n'y a pas si longtemps, du rétinol, hein, l'acide rétinoïque, bon contre les taches et l'acné. Et aujourd'hui, bien, je vais vous parler d'une autre famille d'acides qu'on appelle souvent les acides de fruits.
D'accord. Ouais. Et là, par exemple, moi, j'ai une crème avec de l'acide glycolique dans les mains. Vous l'avez déposé avant d'arriver. Ça en fait partie, ça?
Oui, c'est l'acide glycolique, alors, qui est extrait du raisin, mais aussi de la betterave ou encore de la canne à sucre. Et la particularité de cet acide, c'est qu'il est extrêmement petit. En fait, il va pouvoir rentrer très profondément dans la peau. Et ça, c'est très utile si on a une peau mature de plus de 40, 50, 60 ans. Avec quelques rides. Parce qu'en fait, il va avoir l'action d'accélérer en fait le renouvellement de la peau, comme l'explique Cyril Telinge, qui est le fondateur des laboratoires Novexpert.
Imaginez la peau comme un mur. Tout votre mur est constitué de briques. Et en général, on a la peau qui n'est pas tellement lisse parce que le haut du mur a été abîmé par les intempéries. Donc on a des briques pas tellement régulières. Et bien l'acide glycolique va enlever les premières briques pour faire apparaître les briques en dessous qui, elles, sont très très lisses. Donc l'acide glycolique va permettre rapidement, en une semaine, d'avoir un épiderme plus lisse. Et un épiderme plus lisse réfléchit mieux la lumière. C'est pour ça qu'on a coutume de dire qu'on a un éclat du teint qui est ravivé.
Mmh. Voilà, et son avantage peut aussi être un inconvénient. Parce qu'il est tellement petit qu'il peut être mal toléré par les peaux les plus sensibles, les plus sèches, ou celles qui rougissent rapidement.
Donc ça veut dire que pour ces peaux, il vaudrait mieux se tourner vers un autre acide, Benjamin?
Oui, là c'est plutôt l'acide lactique. Alors c'est le petit cousin de l'acide glycolique. Alors à la base, il est formulé à partir du lait, lactose lactique. Mais de plus en plus, pour des raisons véganes, eh bien on l'extrait dans les fruits rouges, type cerise, groseille ou encore tomate. Et alors effectivement, il est plus soft que l'acide glycolique, donc mieux toléré. Et là encore, il va avoir cet effet lissant, hein, l'acide lactique. Il va casser, il va désintégrer les liens qui maintiennent les cellules mortes à la surface de la peau et qui sont responsables d'un teint, vous savez, granuleux, grisâtre, qu'on n'aime pas, quoi.
Et pour les peaux à imperfection comme la vôtre, Benjamin, quel acide on peut utiliser?
Alors, pour Jérémy et Mélanie, pour les boutons, là c'est l'acide salicylique qui provient de l'écorce de saule, d'où le nom saule salicylique. Et là, c'est un acide qu'on utilise beaucoup contre l'acné, hein, parce qu'il a la capacité de se mélanger avec le sébum de la peau. Et en plus, il est antibactérien. Et donc, il va réduire la présence dans la peau de la bactérie qui est responsable de l'acné. C'est pour ça aussi qu'on en retrouve. Vous savez, on a des petits tubes spéciaux boutons qu'il faut mettre appliqués de zone locale. Donc là, on a de l'acide salicylique dedans. On peut aussi en retrouver dans les shampoings. Alors là, c'est plutôt pour régler des problèmes de cuir chevelu gras ou de pellicule. Et puis, comme il est antibactérien, eh ben, on va l'utiliser comme conservateur dans les crèmes. C'est pour remplacer en fait les parabènes qui étaient jugés comme perturbateurs endocriniens.
Mais ça veut dire qu'on les applique quand même quand en fait finalement les crèmes avec des acides de fruits le soir, le matin?
Alors un acide c'est pas anodin, donc c'est pour ça qu'on conseille toujours de tester. Vous faites d'abord une fois par semaine. Si ça va, vous passez à deux et puis ensuite trois et puis à la fin vous pouvez faire tous les jours de la semaine. Mais surtout le soir, hein, comme l'explique Yann Morel-Lauré, qui est le fondateur de la marque Estime Essence.
Comme on exfolie, on va affiner la peau et donc si on va à l'extérieur derrière, notre peau est moins armée pour se défendre contre les agressions et notamment celle du soleil, et il faut absolument, absolument utiliser un écran solaire quand on utilise des acides.
Voilà, et puis comme la peau est plus sensible aux UV, on évite si possible les crèmes aux acides durant l'été à cause du soleil, ça coule de source. Donc là, on est au début décembre, donc là c'est vraiment une très bonne période pour utiliser des acides.
Et Benjamin, on voit qu'il y a différents dosages. Je vois que vous avez donné 25% à Julia et 5% à moi, ça a une importance.
Oui, plus il y a d'acides, plus c'est fort. Hein, l'acide glycolique et lactique, donc ça c'est ceux qui exfolient la peau, qu'on appelle aussi les AHA, hein, c'est souvent marqué comme ça sur le tube. Alors on a, à partir de 5%, ça commence à agir. Et puis après, au-delà de 10, là, plus c'est fort. Ça va picoter un petit peu, mais ça dure 10-15 minutes. Après, on s'y habitue. Par comparaison, les peelings, vous savez qu'on fait en institut, là, on est donc dans des concentrations à 60-70%. Donc, c'est quand même beaucoup plus élevé. Ah ouais. Et puis, l'acide salicylique, là, on dépasse jamais les 2% de concentration, parce que là, c'est beaucoup trop. On a un risque d'irritation, voire de brûlure.
Et on peut les combiner ou pas? Ça, c'est pour Romain des Arbres que je demande ça.
Oui, exactement. Mais quand vous faites des peelings.
Il se fait attaquer direct.
Sur sa peau, quand on parle.
Un petit peeling.
Quand on fait des peelings en institut, il y a 2-3 acides. Alors après, à la maison, ne jouez pas les apprentis chimistes. On ne superpose pas plusieurs crèmes avec des acides différents. On ne sait jamais comment la peau peut réagir. On achète plutôt une crème qui contient plusieurs acides. Là, on sait comment. On sait que la formule est stable et donc il y a moins de risques.
Eh bien, merci beaucoup, Benjamin, pour cette ordonnance beauté très complète. On a pris des notes. Il est presque midi. C'est donc la fin de ce programme. Merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Bienfait pour vous sera de retour demain à 11h. Qu'est-ce qu'il y aura au programme, Mélanie ?
Julia, dites-moi, est-ce que vous passez beaucoup de temps à vous regarder dans le miroir ?
Ah oui,
oui, oui. Est-ce que vous aimez particulièrement parler de vous ?
J'aime bien, ouais. Pourquoi ?
Ouais, bon, on va voir ça parce que ça, j'allais dire ça va aller pour vous. Je suis pas sûre en fait. Demain, on va s'intéresser aux personnalités narcissiques.
Ah bah si, j'en suis. Hein. Voilà. C'est sûr.
Je m'attendais pas à cette réponse en fait. Est-ce une maladie ? On verra ça pour vous, Julia. Comment éviter de se noyer dans son propre reflet ? Ou encore comment vivre avec une personne ou travailler ? Hein, parce que moi, j'ai envie de savoir avec une personne narcissique parce que ça doit pas être facile tous les jours.
Eh bien, je sais pas. Mais maintenant, nous allons céder la place à l'info sur Europe 1 avec Romain Desarbres. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a au menu d'Europe Midi ?
Bonjour Julia, bonjour à tous. Dans Europe Midi, on va parler beaucoup d'immigration parce qu'il y a un débat cet après-midi sur l'immigration à l'Assemblée nationale. On sera avec un spécialiste et avec vous au 39-21. On va parler également de l'électricité, des risques de coupure d'électricité. Le président de la République s'est un petit peu, allez, pas énervé, mais en tout cas agacé contre tous ceux qui écrivent des scénarios de la peur. Il dit « Nous allons tenir cet hiver, il n'y a pas lieu à polémique ». On en parlera. Et puis vous allez accessoirement entendre Emmanuel Macron dans un instant, dès le début d'Europe Midi.
Eh bien, merci beaucoup Romain. À tout de suite.
Le programme, à tout de suite.